Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Qui sont les pires ennemis de Jésus-Christ? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et surprenante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions aujourd'hui, et ce sont probablement des questions qui vous ont déjà traversé l'esprit. Les voici. Qui sont ceux qui ont persécuté le Seigneur Jésus pour ensuite le faire arrêter et exécuter? Quels étaient les pires ennemis de Jésus-Christ quand l'Église a pris naissance? Quels sont les pires ennemis de Jésus-Christ aujourd'hui? Avons-nous besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour servir le Seigneur? À quel moment un croyant est-il baptisé du Saint-Esprit? Jésus a-t-il dit que l'apôtre Pierre était la pierre sur laquelle son Église serait bâtie? Est-ce uniquement à Jésus que nous pouvons aller pour être sauvés? Comment la vie d'un croyant peut-elle attirer les regards des gens sur Jésus? Qu'est-ce qui cause l'incrédulité? Est-ce que Jésus est Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé nos réponses dans les Saintes Écritures et il est prêt à nous donner tout ce bon enseignement. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Prions. Ô Seigneur mon Dieu, on s'approche de toi, conscient que tu désires nous exaucer. Et on vient te demander de disposer nos cœurs à tout ce bon enseignement que tu vas nous donner par ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné le chapitre 3 du livre des Actes. Pierre et Jean sont allés au temple, où ils ont guéri un boiteux de naissance. Ensuite, Pierre a prononcé un discours au cours duquel il a annoncé la résurrection du Seigneur Jésus et appelé les Juifs à la repentance. Ceux-ci ont eu une dernière occasion d'accepter le Seigneur Jésus, et s'ils l'avaient fait, il serait revenu établir son royaume. Ce chapitre ouvre en rapportant les résultats de la prédication de l'apôtre Pierre. 5000 personnes furent sauvées et les apôtres furent arrêtés à l'instigation des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 et 2. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. J'aimerais attirer votre attention sur un détail surprenant et intéressant. Qui est-ce qui a premièrement persécuté le Seigneur Jésus? Qui est-ce qui, premièrement, l'a fait arrêter et exécuter? C'étaient les chefs religieux, les pharisiens. Ils furent les pires ennemis de Jésus-Christ alors qu'il exerçait son ministère sur terre. Il semble que de nombreux pharisiens se soient convertis. Nous savons que Nicodème était un pharisien et il est probable que Joseph d'Arimathée le fut aussi. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, était pharisien. Il semble que de nombreux pharisiens se soient convertis au Seigneur Jésus. Ils avaient éliminé le Seigneur et ils n'éprouvaient plus d'animosité à son égard. Par contre, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, et lorsque l'Église a pris naissance, ils devinrent son pire ennemi. Ils n'acceptaient pas que la résurrection soit prêchée. Ceux qui s'opposent le plus à un ministère d'évangélisation, ce ne sont pas les alcooliques ou les criminels. Ce ne sont pas eux qui s'opposent à la proclamation de l'Évangile. Les pires ennemis de l'Évangile, ce sont les chefs religieux qui sont modernistes dans leur théologie. Souvent, ce sont des personnes qui se disent chrétiennes, qui travaillent le plus à détruire un ministère d'évangélisation. Ce sont les sadducéens contemporains. Ils ne croient pas au surnaturel. Ils nient l'Évangile par leurs paroles et par leur vie. Êtes-vous de ceux qui haïssent le message de la croix? Ceux qui ne croient plus au surnaturel s'opposent davantage à l'Évangile que quiconque d'autre. Mes amis, vous pouvez prêcher un Jésus qui aime, qui est doux et aimable, un homme qui fait du bien. Personne ne vous ennuiera pour cela. Cependant, aussitôt que vous présentez Jésus pour ce qu'il est, un sauveur puissant venu sur terre qui dénonce le péché, qui est mort sur la croix pour les péchés et qui est ressuscité alors que vous attirez des ennuis et de l'hostilité, car le monde est ce message. Lorsque les apôtres ont prêché Jésus crucifié et ressuscité, ils furent aussitôt arrêtés par les sadducéens et conduits devant le Sanhédrin. Versets 3 et 4. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Tous ces événements se sont déroulés au portique de Salomon après le discours de Pierre. Si le nombre d'hommes s'est élevé à 5000, imaginez combien il y eut de femmes et d'enfants qui se sont convertis en plus. Une foule énorme a cru en Jésus ce jour-là. Versets 5 et 6. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Nous avons déjà rencontré ce groupe hypocrite et rusé avec Anne et Caïphe qui tirent les ficelles. Ce sont eux qui ont condamné le Seigneur Jésus. Verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre et Jean furent conduits devant le Sanhédrin. Le boiteux avait été guéri, et Pierre avait prêché un deuxième sermon. Les juges veulent savoir par quelle puissance et au nom de quelle autorité ils agissent. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. » Notez que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il ne fut pas baptisé du Saint-Esprit cette fois. Cela était déjà fait. Néanmoins, il était rempli de l'Esprit. Vous et moi avons besoin de la plénitude de l'Esprit pour servir Dieu. C'est une chose que nous devrions rechercher de tout notre cœur. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour être baptisé du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à attendre le jour de la Pentecôte, comme les apôtres et les premiers disciples. Nous pouvons être immédiatement baptisés dans le corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, en recevant le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et incorporés au corps formé de croyants aussitôt que vous serez régénérés. Après avoir cru. Versets 9 et 10. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Pierre se tire très bien d'affaire devant le Sanhédrin. Jusqu'ici, lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était pour y mettre un pied. Mais cette fois, il a pour chaussure à ses pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Il est rempli de l'Esprit et il dit ce qui doit être dit. Sommes-nous jugés pour le bienfait que nous avons accordé à cet homme? Cette question devait sonder leur cœur. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre sur laquelle l'Église est érigée. Pierre souligne deux choses au sujet du Seigneur Jésus. Premièrement, le Seigneur Jésus qui fut crucifié et ressuscité. Deuxièmement, le Seigneur Jésus est la pierre. Jésus avait dit, « Et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. La pierre, c'est Jésus-Christ. La pierre n'est ni l'Église, ni Simon-Pierre, mais le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est devenu la pierre principale de l'angle. Ceci s'est accompli par la résurrection qui est au cœur du message de l'Évangile. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus seul peut sauver un pécheur, chers amis. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, nous avions lu, « Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est le Sauveur. » C'était son nom au début, et si vous acceptez le nom, vous acceptez tout ce qu'il implique concernant la personne. Pierre est clair sur ce point, et je tiens à souligner, mes amis, que lorsque vous venez à Jésus-Christ, c'est pour le salut de votre âme que vous venez. Personne d'autre ne peut vous sauver. Jésus est le nom de la personne qui est descendue du ciel pour sauver son peuple de ses péchés. Lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ par la foi, elle est sauvée. Nous ne pouvons pas nous adresser ailleurs pour notre salut. Aucune religion du monde ne peut vous assurer de votre salut. Si vous venez au Seigneur Jésus et que vous lui faites confiance pour votre salut, alors vous pouvez être assuré que vous êtes sauvé. C'est le message de Simon-Pierre, et il termine son allocution au Sanhédrin sur cette note. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Votre vie attire-t-elle les regards sur Jésus? Des hommes du peuple sans instruction. Pierre et Jean n'avaient pas étudié à une école rabbinique ou à un séminaire de théologie. Cependant, les juges ont remarqué qu'ils avaient accompagné Jésus. C'est merveilleux d'avoir une vie qui attire le regard sur la personne de Jésus-Christ. Versets 14 et 15. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ?» Furent-ils touchés par ce qu'ils ont vu et entendu ? Pas du tout. Verset 16. « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. » Même les Sadducéens ne pouvaient nier qu'un miracle avait eu lieu. Il faut un moderniste du 21e siècle et être à des milliers de kilomètres de l'endroit pour nier le miracle. Le boiteux de naissance était devant eux. L'incrédulité est un problème de cœur. De nombreuses personnes affirment que si elles voyaient un miracle, elles croiraient. J'en doute. Ces gens avaient vu un miracle et ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Nous avons toujours la même nature humaine. Ce n'est pas un problème intellectuel, mais un problème de volonté et de cœur. Le cœur est méchant par-dessus tout. L'incrédulité n'est pas due à la faute de preuves. Ceux qui ont eu des preuves ont tout de même refusé de croire. Versets 17 à 22. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et, Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Les membres du Sanhédrin avaient des cœurs de pierre. Ils n'ont pas été touchés par les événements. Pierre et Jean ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Versets 23 et 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Pierre et Jean sont retournés vers les chrétiens de l'Église et ils ont fait un rapport. Nous avons donc le récit d'une belle rencontre de l'Église primitive. Je ne pense pas que l'état spirituel de l'Église ait jamais atteint le même degré que celle à l'époque des premiers chrétiens. Nous pouvons comprendre pourquoi par le contenu de leur prière qui est en fait un chant de louange. Croyez-vous vraiment que Jésus est Dieu? Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le Créateur. Mes amis, je crains que des branches de l'Église ne soient pas certaines de la véracité de cet énoncé. Le Seigneur est Dieu, mais vous, en êtes-vous certains? Vous ne devez pas faire d'erreur à ce sujet. Certaines branches de l'Église sont vacillantes. L'Église n'a plus le pouvoir qu'elle avait. Souvent, l'Église s'appuie sur des méthodes, des programmes et des techniques pour attirer les gens. De nombreuses églises ne sont plus que des clubs religieux. Elles n'ont plus la puissance de l'Église primitive. La jeune Église savait avec certitude que Jésus était Dieu. Les chrétiens citent le psaume 2 dans leur prière. Versets 25 et 26. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ce psaume commence à s'accomplir à la crucifixion. La haine envers Jésus et envers Dieu s'accroît depuis ce temps et perdure encore aujourd'hui. Elle est plus profonde et se manifeste encore beaucoup plus. Elle atteindra son sommet ici sur terre lors de la rébellion finale contre Dieu. Versets 27 à 29. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Cette prière est touchante et exemplaire. Tous priaient d'une même voix. Remarquez qu'ils n'ont pas prié afin que la persécution cesse, mais afin d'avoir du courage dans l'épreuve. Ils ont demandé pour de la puissance et de l'assurance. L'Église primitive est différente de l'Église contemporaine. Versets 30 à 32. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Cela n'a pas duré longtemps. Des chrétiens égoïstes eurent vite fait d'envahir l'Église. Versets 33-37. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Oui, chers amis, l'Église primitive a pu vivre ainsi alors qu'elle était dans un excellent état spirituel. Aujourd'hui, nous ne pourrions vivre ainsi. Si nous essayions, ce serait le désordre total. Pourquoi? Il faudrait remonter au même degré d'état spirituel que l'Église primitive. Soyons honnêtes et reconnaissons que nous devons développer et maintenir une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Le geste de Barnabas est mentionné. Nous allons revenir à ce personnage très bientôt dans une autre émission. Une personne que Dieu va utiliser, parce que cet homme a un cœur disposé à le faire. Et nous, sommes-nous à l'écoute du Seigneur Jésus? Est-ce que nous laissons librement le Saint-Esprit agir en nous? Quel genre de vie chrétienne avons-nous? Je parle de la vie chrétienne, oui, de ceux et celles qui ont reçu le Christ comme sauveur personnel. Qu'est-ce qui caractérise votre vie chrétienne? Est-ce la générosité? Le fait de vouloir partager avec joie ce que nous possédons avec ceux qui sont dans le besoin? Et premièrement, être au service du Maître, du Roi, de celui qui nous a rachetés à un grand prix. Nous lui appartenons, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Est-ce que les gens voient le Seigneur dans notre vie? Lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, est-ce que les gens peuvent nous identifier avec la vie, la personne de Christ? C'est notre témoignage. Et les gens sont tous témoins. Nous devons rendre compte un jour de la façon dont nous aurons vécu notre vie chrétienne ici-bas. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. C'est écrit pour le peuple de Dieu. C'est pour les croyants, cette rencontre. Un jour, nous rencontrerons le Seigneur. Est-ce que nous pourrons entendre de sa bouche ses paroles, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Est-ce que votre vie est caractérisée par le service envers le Maître? Celui qui est venu vous délivrer du péché, de cette indifférence à son égard, de cette vie qui reflétait autrefois l'égoïsme et l'orgueil de l'homme. Mettons ces choses de côté, ce qui appartient à la chair. Vivons plutôt selon et par l'Esprit de Dieu. Une vie engagée, consacrée envers le Seigneur Jésus. Voilà, tout le sens de la vie chrétienne se trouve dans cette vérité, que nous sommes des serviteurs pour la cause de l'Évangile. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Actes 5, versets 1 à 42.
Merci, Régent. Au cours de ce bon enseignement, tu nous as posé une question. Tu as dit, « Votre vie attire-t-elle les regards sur Jésus? » Ça m'a fait réfléchir. Presque chaque jour, je dois sortir. Parfois, c'est pour aller à mon travail, qui souvent est parmi les croyants. Mais quand même, assez fréquemment, J'ai des commissions à faire, soit à la pharmacie, à l'épicerie, à la banque, chez le nettoyeur, dans certains magasins. Et parfois, alors que je me promène parmi cette foule de gens, je réalise que je fais partie d'une minorité de personnes qui ont vraiment une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Ceux qui ont reçu le don gratuit de la vie éternelle en croyant en Jésus seul, pour la recevoir. Je dis bien que nous sommes une minorité, puisque Jésus lui-même a dit à ses disciples dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je disais donc que parfois je me retrouve à différents endroits publics. Puis je réalise le privilège que j'ai d'être un enfant de Dieu. Et ce que ça produit en moi, c'est de chercher à agir comme le Seigneur Jésus agirait s'il était à ma place. Je sais qu'il donnerait beaucoup d'amour à toutes ces personnes qui en ont tant besoin. Et alors, je fais tous mes efforts pour donner une bonne parole à un individu, un sourire à un autre, de l'aide à quelqu'un qui semble en avoir besoin. Je sais que je ne dois pas être simplement comme tout le monde. Je dois tenter de donner ce plus que le Seigneur me met à cœur, sans compter, et ce, dans l'espoir non seulement de faire du bien aux gens, mais d'attirer leur regard sur Jésus, celui qui vit en moi par son esprit, qui a fait sa demeure en moi le jour où j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, le jour où je me suis repenti, où je me suis détourné de ma vie de péché pour me tourner vers le Seigneur qui m'a donné le don gratuit de la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, as-tu rencontré des gens qui sont sans Dieu dans le monde aujourd'hui? Peut-être au travail, à l'école ou ailleurs? Crois-tu qu'ils t'ont reconnu comme étant un disciple du Seigneur? Les as-tu aimés inconditionnellement? As-tu rendu le bien pour le mal à ceux qui ont été injustes envers toi? C'est ce que Jésus aurait fait. Quand je pense qu'en agonisant sur la croix, il a pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Oh, tu vas peut-être me dire « Oui, mais c'est Jésus qui a dit ça, et Jésus, c'est Dieu lui-même. Il a la capacité d'agir ainsi, il est parfait en amour. » Mais on peut se rappeler l'histoire d'Étienne, dans le livre des Actes, au chapitre 7, au verset 59 et 60. Il est écrit qu'il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Alors, pardonnons aux autres, comme le Seigneur nous a pardonnés. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.